à tous, troisième jour de la semaine à la rencontre des artistes d'hier et d'aujourd'hui. À 13h50, François Sureau fera halte au cimetière du Père-Lachaise pour un temps d'hommage et de méditation. Mais avant cela, nous allons nous rendre hommage à Cézanne et Zola. L'exposition du musée Marmottan-Monet, Cézanne et les maîtres rêves d'Italie, explore les inspirations et influences du peintre et son rôle de passeur. Parmi les toiles, les traces des maîtres italiens et également d'autres affinités plus littéraires, histoire de meurtres, de femmes étranglées, clin d'œil à Zola, son ami d'enfance. À la croisée de ses inspirations se dessine le parcours du père de l'art moderne, dont nous allons parler aujourd'hui en compagnie d'Alain Tapier, commissaire de l'exposition, de Dominique Dupuis-Labbé, historienne de l'art, et d'Alain Pagès, historien de la littérature, auteur de Zola et le groupe de Médan, histoire d'un cercle littéraire. Bienvenue à tous sur France Culture.
La grande table d'été, Maëlys Besserie.
Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Alors, quelques mots sur cette exposition. On va commencer bien sûr par là. Cézanne et ses maîtres, l'italianité de Cézanne. Alors, c'est à la fois les influences qu'il a pu puiser, mais aussi transmettre. On va commencer par ces comparaisons. L'exposition commence par comparer des œuvres dans la structure et leur composition. Le visiteur se retrouve en réalité un peu avec un œil de peintre.
Oui, Alain Tapier. Cézanne ne cesse de regarder la peinture et regarder la peinture italienne en particulier. Il la regarde parce qu'il l'aspire et il en a un besoin terrible, parce qu'il a des sujets qui sont en même temps des obsessions, qui sont des choses difficiles, passionnantes, pulsionnelles. Et dans cette peinture, en particulier dans la peinture vénitienne, il va trouver non pas des motifs, il va trouver non pas même des formes géométriques, mais il va trouver ce que j'appelle des formants, c'est-à-dire des sortes de moules qui vont lui permettre de sortir, d'expulser ce qui finalement est très puissant du point de vue plastique, très inventif et très original du point de vue de l'histoire de l'art, mais qu'il est à peine regardable. Et il n'a pas pratiquement de public pour ces choses, pour ces tableaux. Et c'est dans cette peinture vénitienne, très particulièrement dans la peinture napolitaine aussi, dans un premier temps, qu'il va trouver ses formants.
Alors, Dominique Dupuis-Labbé, c'est vrai que quand on démarre cette exposition, une des premières phrases inscrites sur les murs, c'est que Cézanne n'a pas mis les pieds en Italie, il n'a pas fait le voyage qu'ont fait d'autres de sa génération. Alors c'est étonnant, cette inspiration qui lui vient de loin, qui est comme transmise comme ça. Est-ce que c'est par les copies qu'elle lui est transmise? Est-ce que c'est par les images qu'il en a?
Il fréquentait beaucoup le Louvre. C'était un amateur de peinture ancienne. Et effectivement, je crois que l'exposition d'Alain Tapier le montre. Il a un œil, il aime la peinture. Il est fasciné par la composition, les rapports des lignes, les rapports de masse, les rapports de couleurs. Donc, il s'intéresse effectivement aux Vénitiens. Il a manifesté un intérêt extraordinaire pour les Vénitiens et je fais juste une incise pour dire que c'est aussi parce qu'il a l'amour de la couleur qu'il va chez les Vénitiens et c'est une de ses qualités qu'il va transmettre à la génération qui le suit.
Alors, il ne va pas chez les Vénitiens vont à lui, alors oui. À travers le Louvre notamment, et Alain Pagès, on se dit que ce qui le relie à l'Italie, c'est aussi sa culture classique, Cézanne,
oui,
ses lectures d'Ovide, de Virgile.
Tout à fait, moi j'aime beaucoup le paradoxe au fond de cette exposition qui nous permet de réfléchir à la culture de Cézanne, qui nous renvoie à la formation intellectuelle de Cézanne, c'est-à-dire ce collège d'Aix où il était nourri de latin, de grec, de Virgile, en effet, d'Ovide, comme vous le dites, avec Zola, avec son ami Zola, et ils étaient capables d'ailleurs dans leurs lettres de citer des vers latins, de les évoquer, et il y a donc ce paradoxe d'un Cézanne qui n'est jamais allé en Italie, mais qui vit d'une certaine façon à Aix, dans une ville presque italienne. Je pense d'ailleurs, puisqu'on parle de Zola aussi, à la première ligne du cycle des Rougon-Macquart, ce début de la fortune des Rougon qui nous dit « Quand on sort de Plassans par la porte de Rome ». Plassans, c'est la ville qui, dans les Rougon-Macquart, évoque Aix. Donc on voit très bien que Rome est présente aussi bien dans le rêve de Zola que dans le rêve de Cézanne.
Alors on va peut-être rebondir sur la question de la couleur, puisqu'on parlait de la couleur, Alain Tapier.
Précisément. Cézanne dit « Je cherche à rendre la perspective par la couleur. Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de modelé, il n'y a que des contrastes. Mais ce ne sont pas des contrastes de noir et blanc, c'est la sensation colorée qui produit les contrastes. Pourquoi s'adresse-t-il à Venise ? Parce que Venise est le lieu, je dirais, de l'invention des équivalents plastiques. » Et c'est à partir de
Il faut peut-être expliquer ce que alors, sont les équivalents plastiques.
Eh bien, ce sont tout simplement, ce n'est pas le sujet qui va donner en quelque sorte la teneur, c'est le rapport de l'individu au sujet.
Donc on ne va pas représenter de manière réaliste, mais en suivant son tempérament et son regard personnel, le regard du peintre.
Voilà, la question du réalisme ne se pose pas parce que le sujet devient objet immédiatement. Mais un objet sensible, un objet miroir, un objet presque comme le ferait un peintre romantique. Et c'est en cela que je pense que Cézanne est aussi un peintre romantique à sa manière.
Alors c'est toute la question de la transformation du geste artistique. Tout passe par là et dès le départ chez Cézanne en réalité. Même dans sa manière d'imiter, en tout cas de rechercher quelque chose chez les maîtres italiens, l'idée n'est justement pas celle de la copie.
Ah non, elle est pratiquement absente tout le temps, la question de la copie. Ce qui, le maître mot chez Cézanne, c'est plutôt la modulation. Il va chercher à façonner dans la couleur, à façonner la forme, le volume, de façon à lui permettre de saisir à un moment donné un objet, un autre objet, une figure, un moment de paysage, un moment du végétal, du minéral, et petit à petit organiser quelque chose qui aura précisément une dimension organique. Voilà.
Alors on voit d'ailleurs à travers l'exposition que les regards ne sont pas nécessairement chronologiques, puisque cette influence italienne, elle transpire à travers sa peinture tout le long de sa carrière. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a, c'est-à-dire qu'il y a des allers-retours vers les maîtres italiens. Dominique Dupuis-Labbé, est-ce que vous pensez que c'est juste que Cézanne a toujours eu cette inspiration italienne qu'il a suivie, peut-être de manière différente dans son parcours ?
Oui, certainement, parce que je pense que c'est plus que de l'inspiration, c'est de l'amour. Il a gardé cet amour de l'Italie et de la peinture italienne toute sa vie. Et Alain Tapier citait les Vénitiens et l'importance de la couleur, de la modulation. Qu'on s'en souvienne par exemple d'un extrait de la lettre de Cézanne à Émile Bernard le 15 avril 1904, où il dit « Les bleutés pour faire sentir l'air, les vibrations de lumière représentées par les rouges et les jaunes. La couleur est quelque chose qui l'habite absolument. » Et je pense que lorsqu'on voit des œuvres de jeunesse, on sent à quel point il a su ensuite sublimer cette première inspiration.
Alors la couleur, c'est aussi celle des paysages, hein, qu'on découvre dès la troisième pièce de l'exposition. Et là, on retrouve Aix, les paysages, lieu de promenade aussi entre Cézanne et Zola. Zola qui apparaît d'ailleurs dans un portrait assez rapidement dans l'exposition, Alain Pagès.
Oui, en effet, l'exposition montre d'une certaine façon le décor des promenades, des balades de Zola, de Cézanne. Il y avait aussi un troisième ami qui s'appelait Jean-Baptiste Baille. Et ce décor de la Sainte-Victoire, c'est une montagne.
La Sainte-Victoire, c'est la montagne.
Voilà, c'est la Sainte-Victoire que Zola va tellement peindre, qui se trouve juste au bas de laquelle se trouve juste le barrage Zola, le barrage peint par le père de Zola, François Zola, le barrage construit, je veux dire, par le père de Zola. Et donc, leurs promenades sont dans ce décor-là.
Alors, faut peut-être dire un mot d'abord de leur relation qui date de l'enfance.
Voilà, ils sont camarades de collège, ils se sont rencontrés à l'âge de 12-13 ans dans le collège d'Aix, et ce qui les rapproche d'une certaine façon, c'est une détestation de cette ville étouffante, la ville d'Aix, et leur plaisir avec ce troisième camarade qui s'appelle Baille, c'est de fuir en dehors des murailles d'Aix, de fuir en la campagne, et cette initiation d'une certaine façon, cette initiation intellectuelle à tous les deux sera fondamentale dans leur œuvre, puisque pour Cézanne, cela donnera toute cette peinture que l'on connaît, la Sainte Victoire, les baignades notamment, et pour Zola, évidemment, ça donnera ce contact avec la nature. Et cette idée du naturalisme qui commence à surgir dans son esprit, qu'on pourrait résumer par une formule qui, au fond, lui convient, car il l'a créé, mais en même temps qui convient parfaitement à Cézanne, eh bien, qu'est-ce que c'est que la création ? C'est un coin de la nature vu à travers un tempérament.
Alors, avant d'en arriver complètement à la nature, Alain Tapier, on parlait de l'œil du visiteur. Le visiteur, il est amené quand même à faire des découpages dans les compositions. Il y a des mises en évidence de toiles de peintres vénitiens, de peintres italiens, avec celles, peut-être les œuvres plutôt de jeunesse d'ailleurs, de Cézanne.
Oui, parce que le visiteur est amené à une démarche d'absorption. Il est incité à regarder au plus profond de la nature. Car encore dans la démarche romantique, ce qui est peint vient de l'intérieur pour aller progressivement vers l'extérieur. Le rapport de Cézanne à la nature est un rapport absolument fusionnel, mais il est dans un premier temps fusionnel dans le rapport mythique à la figure féminine. Et c'est cette mutation qui se produira progressivement vers un rapport à la nature. Et c'est ainsi que peut-être...
Ça passe par le mythe, hein, ça passe par le mythe, et le mythe, voilà. Ça passe par les peintres classiques.
Et le mythe passe par les peintres classiques, mais passe bien aussi par les anecdotes des journaux, du magasin pittoresque, des meurtres, des femmes étranglées, de la femme étranglée, et ça passe par ces choses extrêmement fragiles, extrêmement futiles, dont qu'il va travailler comme une pâte de façon extraordinairement puissante. Et la première partie de l'exposition peut-être s'appellerait d'une certaine manière la nature de l'art. En romantique, encore une fois, Cézanne peint la nature, il peint avec la nature, et c'est ce qui est une constance. Il aura beaucoup appris de la période impressionniste, des moments qu'il aura passé à Auvers, à Pontoise, auprès de Pissarro en particulier. Il aura beaucoup appris parce qu'il aura appris à prendre distance avec ses sujets, à regarder un peu autrement le monde, à resserrer la touche à l'organiser, tout en évitant cet émiettement impressionniste qu'il ne l'a jamais attiré, mais tout en respectant énormément le sens de l'analyse qu'avait Pissarro, le sens de l'éblouissement de la lumière qu'avait Monet, sans pour autant laisser cette lumière envahir et d'une certaine manière déconstruire ou dénaturer la peinture.
Alors on va prendre une ou deux toiles précises. Dominique Dupuis-Labbé, il y a ces toiles de jeunesse qu'on connaît peut-être moins, en tout cas qui sont moins souvent exposées de Cézanne. Par exemple, La femme étranglée. Alors La femme étranglée, on la met, elle est apposée à la descente de croix du Tintoret. On voit là l'inspiration italienne, mais on voit cette puissance d'un corps courbé qui étrangle, qui est en train d'étrangler, qui est pris sur le vif muscle tendu. C'est une toile extrêmement mobile au fond, enfin qui décrit un mouvement d'une extrême violence. Peut-être on pourrait dire quelques mots de ces gestes-là représentés, mais aussi de la couleur de cette toile. On parlait des bleus, là ils apparaissent en toile de fond.
Il y a une véritable violence dans la peinture de Cézanne. Dans ce qu'il appelait, je cite ces mots, qui vont peut-être choquer certains auditeurs, mais il appelait ça sa période couillarde. Et il y a effectivement des scènes de viol, des scènes de meurtre, des étranglements, il y a quelque chose de l'ordre, et Alain Tapier le soulignait, du pulsionnel. Et le pulsionnel...
Il peignait à la main d'ailleurs, hein, c'est une période
oui, mais par rapport effectivement, on a beaucoup parlé des relations parfois difficiles que Cézanne entretenait avec les femmes, sa difficulté à faire poser des modèles féminins, d'un homme extrêmement, je crois, introverti et peut-être timide, et puis c'était un tout jeune homme, donc il fallait qu'il s'exprime, et je trouve ça très intéressant, parce que dans le fond, c'est aussi une composante essentielle de la peinture classique. Parce que des scènes de viol, de meurtre, mais on en trouve dans toute la peinture classique.
Dans la mythologie, inspirée
dans la mythologie. Mais il suffit de penser à l'enlèvement des Sabines, il suffit de penser au massacre des innocents. La peinture ancienne, on s'en rend plus compte peut-être maintenant, mais parce que ces sujets nous sont connus et qu'on ne perçoit pas la violence extrême de la peinture ancienne. Et Cézanne l'a...
Il faut dire que parfois la scène est représentée juste avant ou juste après. Et ce n'est pas le cas dans le tableau, Alain
Tapie. Non, c'est un peintre d'imaginaire par nécessité. Par nécessité intérieure et profonde. Et ce que ces rapports nous conduisent à considérer, à prendre en considération, ce sont précisément des lignes de force. Ce ne sont pas tant des éléments géométriques, ce sont des lignes
quand même,
de force.
Il y a quand même ce triangle du corps qui se courbe.
Très vite, ces lignes nous conduisent dans des abîmes. Très vite, nous sommes emportés, embarqués vers l'abîme, vers des chutes absolument vertigineuses, quelle que soit d'ailleurs la dimension du tableau, très petite.
La et femme alors, à terre, les cheveux...
Cet emportement, voilà. ce côté tellurique de la peinture de Cézanne ne cessera jamais, mais il se produira de façon différente. Et ce que l'on peut appeler dans la peinture italienne la terribilità est déjà totalement présente, comme elle est chez Tintoret.
Peut-être
elle
quelques mots sur de définition, s'il vous plaît.
Alors, la terribilità, c'est cet état, c'est un mot que l'on retrouve dans la peinture de Michel-Ange, en particulier dans l'art de Michel-Ange. Hein. C'est cette inéluctabilité de la destinée humaine dans sa quête, dans le monde, dans son chemin dans le monde. Et c'est ce qui est profondément ancré dans la culture de Cézanne aussi.
Alain Pagès, quand on voit cette toile, notamment celle du meurtre, hein, autre toile de jeunesse de Cézanne, il y a une référence directe à Thérèse Raquin, à Zola. Peut-être quelques mots sur Thérèse Raquin et vous, ce que vous avez ressenti devant cette toile, l'avez-vous découverte, la connaissiez-vous?
Oui, je la connaissais. Moi, je suis en effet passionné par ce que montre cette exposition, cette violence d'un Cézanne exubérant. On parlait de peinture couillarde tout à l'heure, puisque c'est en effet l'expression qu'il a employée. Et quelque chose qui, en effet, est en correspondance avec l'univers de violence, fondé sur le meurtre en particulier, qui sera celui de Zola. Vous évoquez Thérèse Raquin, le premier roman juste avant Les Rougon-Macquart, qui est le roman du meurtre. Il y aura plus tard La Bête humaine. Donc, de ce point de vue-là, il y a tout à fait un point commun entre Zola et Cézanne. J'ajouterai que le point commun, c'est aussi ce processus que décrit très bien Alain Tapie d'une reprise du mythe ancien qui va produire du côté de Cézanne, au fond comme du côté de Zola, je dirais un réalisme visionnaire, un réalisme mythique. Et c'est cela qui est tout à fait passionnant.
Alors c'est vrai que à propos de Thérèse Raquin, c'est vrai que Thérèse Raquin, dans le meurtre dans le roman de Thérèse Raquin, c'est le point qui va se payer de toute la fin du livre, hein. Ça va être le point de bascule terrible. Là, dans cette représentation-là du meurtre, on retrouve à la fois la littérature du 19e française, mais même anglaise. C'est tout le 19e qu'on retrouve dans cette toile en littérature, Alain Tapie.
Oui.
On pense à Dickens, on pense à tout
c'est
ça.
C'est possible.
Il y a cette violence-là.
Si ce n'est que tout ce caractère narratif disparaît dans la peinture de Cézanne. Cézanne crée, à sa manière, une forme d'explosante fixe. N'est-ce pas ? Il arrête le mouvement sans nous donner le sentiment, pour autant, de cette manière de tourner, où les corps ont de tourner sur eux-mêmes. Et quand Cézanne emploie le mot peinture couillarde, n'oublions jamais qu'il est toujours, et toute sa vie, il le sera différemment, en dérision vis-à-vis de lui-même. Il se tourne en dérision. Mais il a des phrases qui sont essentielles, pour autant, et qui nous obligent à réfléchir. Il dit « Je suis un peintre unique au monde ». Je crois qu'il le dit avec dérision, et en même temps, il le pense. Et en même temps, c'est vrai, parce que... quel que soit ce qu'il a saisi de l'impressionnisme, et c'est pourquoi nous avons fait cette exposition au musée Marmottan menée avec Marianne Mathieu, parce que précisément, ce qu'apporte l'impressionnisme à Cézanne, c'est tout à fait déterminant, c'est cette distanciation, n'est-ce pas ? Cette distanciation qui n'était pas véritablement saisissable pour le public, alors qu'elle existait en germe dans ses premiers tableaux terribles, et grâce à la Maison du Pendu, grâce à la moderne Olympia, grâce à ces tableaux des années 70, 76, 79, grâce surtout à la lutte d'amour, eh bien c'est quelque chose, une sorte de métamorphose va se produire. Et Cézanne est le peintre des métamorphoses permanentes.
Alors un autre tableau de cette période-là, il y a la toilette funéraire, hein, qui est mis aussi en rapport avec la peinture italienne. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de l'aspect novateur de ces œuvres-là par rapport à ce qui va se passer pour lui
ensuite, il va y avoir la peinture de la nature, le plein air, toute cette période-là qui va suivre. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette toile très surprenante, la toilette funéraire, ce corps en premier plan
Je pense que Cézanne a véritablement le désir de s'inscrire dans une tradition de la peinture. Et quand il dit qu'il est unique en son temps, il est aussi unique par rapport aux siècles qui ont précédé et certainement par rapport aussi à celui qui va le suivre. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas peur des sujets. Et il va effectivement chercher des sujets tout à fait étonnants pour la période à laquelle il crée. Quand on regarde l'œuvre de Monet, de Renoir, et ensuite de la génération de Gauguin, Van Gogh, il est rare de voir ce type de sujet. Et je pense également aussi à la Madeleine pénitente, par exemple. Ce sont vraiment des sujets qu'il s'approprie. Et je pense que c'est un phénomène extrêmement intéressant de la part de Cézanne.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est audacieux, qu'il ne s'interdit rien ?
Ah, oui, il s'interdit absolument rien. Il ne s'interdit rien, mais il a cette capacité à s'approprier ce que ses prédécesseurs ont apporté pour en faire effectivement quelque chose de tout à fait différent, tout à fait unique, tout à fait personnel. Et je dirais que c'est une part de son héritage. C'est-à-dire qu'il a effectivement délivré la génération suivante d'un certain nombre de conventions, de cadres, et même voire de respect. C'est-à-dire qu'il a presque quelque chose d'irrespectueux par rapport à la peinture
académique.
Oui.
Alain Tapier.
Ce tableau, vu au Louvre, la déposition de Ribera, c'est un tableau encore une fois, un phénomène de métamorphose tout à fait extraordinaire. Ce tableau devient la toilette funéraire. Cette toilette funéraire, qui est autre part fondée sur, ce tableau est fondé sur des contrastes de lumière, de clair-obscur, dans une perspective caravagesque, devient non pas un tableau de contraste, mais un tableau dans lequel les masses des figures deviennent le véritable sujet. C'est la puissance de ces masses, c'est leur intériorité profonde, insondable, grâce à un travail sur le modelé qui est tout à fait extraordinaire. Cézanne allait tout le temps au Louvre, c'est vrai, dans les musées, Aix, beaucoup, un peu Marseille, peut-être d'autres, Rouen, on ne sait pas, mais probablement. Et au Louvre en particulier, il dessinait. Mais que dessinait-il ? Il ne copiait pas, il attrapait sur des statuaires antiques, il attrapait des modelés. Il attrapait ces passages de lumière qui lui permettaient de dire « la ligne n'existe pas plus dans la peinture qu'elle n'existe dans la nature ». Donc, voilà. Et c'est ce qui fait Cézanne, c'est-à-dire ce passage permanent de ce qui est végétal, minéral, figure, objet, paysage. Il y a une sorte d'indistinction qui est déjà là en germe au début, mais qui se poursuit pendant toute sa carrière.
Et qui passe toujours par le regard du peintre, le regard subjectif. Alain Pagès.
Oui, je voulais juste commenter cette référence au Louvre, parce qu'on en a beaucoup parlé déjà. Vous en parlez bien dans le catalogue de l'exposition. Je crois qu'il est important, par exemple, de situer ce grand moment d'expérience de Cézanne par rapport au tableau qu'il peint de Zola jeune, qui un tableau peint en gros entre 1862 et 1864.
Vous parlez du portrait.
Voilà le portrait, hein, le portrait de Zola jeune, qui est un tableau peint par Cézanne à Paris lors d'un séjour assez long qu'il fait auprès de Zola dans cette vie de bohème qui était celle de Zola. Et cette période, on la connaît assez bien grâce à ces lettres qu'ils échangent tous les deux. Et je crois qu'il faut réfléchir aussi non seulement à Cézanne solitaire, comme vous le montrez bien, mais à ce grand dialogue intellectuel qui s'exprime notamment à travers les lettres.
Alors vous allez nous en lire un extrait peut-être. Il y a une lettre de Cézanne.
Avant de vous en lire une, je voudrais citer l'exemple d'un passage d'une lettre de Zola à Cézanne qui date de 1861, où invitant Cézanne à venir à Paris, il lui dit « Paris t'offre un avantage que tu ne saurais trouver autre part, celui des musées où tu peux étudier d'après les maîtres depuis 11 heures jusqu'à 4 heures. Et puis il lui donne une sorte d'emploi du temps. Il lui dit, le matin, tu iras dans un atelier. Là, dans cet atelier, tu pourras peindre d'après des modèles vivants. Et puis, ensuite, après avoir déjeuné, tu copieras, je cite Zola, soit au Louvre, soit au Luxembourg, le chef-d'œuvre qui te plaira.
Alors ça, c'est deux mouvements, Dominique Dupuy-Labbé, qu'on retrouve d'ailleurs dans sa peinture. Hein, ce que offrent les musées, et puis de l'autre côté, ce qu'offre la nature, notamment d'Aix. On parlait tout à l'heure de la montagne Sainte-Victoire représentée plus de 80 fois. Il va y avoir justement ce double mouvement, à la fois d'aller faire de la peinture en plein air et l'autre de toujours puiser chez les maîtres, de toujours repartir de là.
Mais je me demande si ce n'est pas le même mouvement, en réalité. Parce que pour lui, il n'y a peut-être pas de différence entre ce qu'il voit dans un musée et ce qu'il voit dans la nature. Particulièrement parce que la montagne Sainte-Victoire est absolument le contraire de la nature choisie par les impressionnistes. La nature éphémère, mouvante, fugace, les vibrations sans cesse renouvelées. Non, Cézanne a besoin de pérennité, je crois. Et la pérennité, il la trouve dans les musées, il la trouve devant la montagne Sainte-Victoire. Et puis ça lui permet, effectivement, comme le soulignait Alain Tapier, de se dégager du sujet. Effectivement, la toilette funéraire, c'est essentiellement les rapports de masse, les rapports de couleur. Or, Cézanne, il faut pas oublier qu'il y a cette lettre qu'il écrit en 1897 à Joachim, ou Joachim, je sais pas comment on prononce, Gasquet, son ami qui était poète aixois. L'art est une harmonie parallèle à la nature.
Donc c'est la même chose, Alain voilà. Tapier, vous êtes d'accord avec ça? Il s'agit exactement de la même chose, du même mouvement, et lui-même il s'inscrit dans ce continuum.
Absolument. Cézanne est un grand connaisseur c'est un humaniste. Ça veut dire que les notions d'Horace, d'Aristote, de lutte pictura poésis, il les connaît. Il les connaît. Il sait ce qu'est l'invention et il sait quelle distance prendre avec. Il sait que ce qui va l'intéresser, c'est l'expression, encore une fois, dans cette dimension romantique, l'expression de soi, n'est-ce pas? C'est toujours soi qui est là, au milieu de la peinture. Il sait ce qu'est le décorum, il sait ce qu'est ce que le tableau va dire. Et à partir de là, il va forger ce qui ne sera jamais une méthode, ce qui ne sera jamais une formule, mais le seul mot que j'ai trouvé, une manière. C'est sa manière de peindre. Et Gauguin l'avait très bien décelé. Gauguin dit à un moment donné, il doit avoir une formule. Alors il dit, Gauguin, s'il trouvait la recette pour comprimer l'expression outrée de ses sensations, dans un seul et unique procédé, voyez, tâchez de le faire causer dans son sommeil. Alors évidemment, Cézanne détestait Gauguin, donc il lui dit « Non, il va pas me piquer ma petite sensation quand même ». Voilà comment, c'est le cœur du débat. Gauguin a parfaitement compris la démarche unique de Cézanne.
Est-ce qu'on peut dire un mot quand même, Alain Tapier, de la manière matérielle dont il peignait cette peinture tactile, en tout cas cette peinture directe, qui a duré longtemps? Il peignait avec ses doigts en partie?
Non, il peignait avec les pinceaux.
Il y avait les pinceaux.
Il peignait avec les pinceaux, mais il commençait souvent par la partie la plus apparemment en vue du tableau, la partie la plus qui va pointer en quelque sorte. Et progressivement, il tournait autour et il redescendait vers les autres parties du sujet. C'est pourquoi il y a cette unité organique extraordinaire qui petit à petit deviendra de plus en plus ordonnée, mais une ordonnance intérieure. Ce qui fait que ce n'est pas un peintre classique au sens de la hiérarchie du sujet. C'est un peintre classique, s'il en veut, au sens d'une nouvelle forme de sensibilité parfaitement ordonnée. Et c'est en cela qu'on peut dire qu'il est classique, mais ne jouons pas non plus sur le mot baroque d'un côté, classique après, et pourquoi pas vieux baroque à la fin de sa vie. Non, il y a en effet cette formidable continuité. Et il est vrai qu'à partir des années 1800, les choses se stabilisent vers 85-90, du 185-90. Eh bien, Cézanne va renverser la proposition et il va s'attacher s'intéresser à l'art de la nature. Et c'est en cela qu'il aura le souvenir impressionniste qui dit « mais je peins avec la nature ». Ça veut dire que la nature fait déjà une grande partie du travail. Je ne suis pas seul à tout faire, n'est-ce pas? Et ça, il aura appris de ça. Mais simplement, il l'aura tellement recouverte que cette nature apparaîtra comme en effet transcendée, transformée, en pleine métamorphose.
France Culture, la grande table d'été, par Maëlys Bessery.
Et aujourd'hui, la carte blanche, c'est vous qui l'avez choisie, Dominique Dupuis-Labbé. C'est une lettre de Matisse à Raymond Écolier, conservateur du Petit Palais. On va écouter Chouchène Gergaillon la lire.
Nice, le 16 novembre 1936. Monsieur, j'ai remis hier à votre expéditeur les baigneuses de Cézanne. J'ai vu emballer le tableau avec soin, et il devait partir le soir même pour le Petit Palais. Laissez-moi vous dire que ce tableau est de première importance dans l'œuvre de Cézanne, car il est la réalisation très dense, très complète d'une composition qu'il a beaucoup étudiée dans plusieurs toiles, qui, bien que placées dans les collections importantes, ne sont que les études qui ont abouti à cette œuvre. Depuis 37 ans que je la possède, je connais assez bien cette toile, pas entièrement, je l'espère. Elle m'a soutenue moralement dans les moments critiques de mon aventure d'artiste. J'ai épuisé ma foi et ma persévérance. Laissez-moi à ce titre vous prier de lui donner la place qu'elle demande, pour qu'elle puisse se donner en toutes ses possibilités. Il lui faut pour cela lumière et recul. Elle est savoureuse de couleurs et de métiers, et par le recul, elle met en évidence la puissance de l'élan de ses lignes à la sobriété exceptionnelle de ses rapports. Je sais que ce n'est pas à moi de vous dire cela, mais cependant, je crois qu'il est de mon devoir de le faire. Acceptez-la, je vous prie, comme le témoignage de mon admiration pour cette œuvre, qui n'a cessé de grandir depuis que je la possède. Laissez-moi vous remercier pour les soins que vous lui donnerez, car c'est en toute confiance que je vous la remets. Henri Matisse.
Alors pourquoi ce choix, Dominique Dupuis-Labbé? C'est une toile dont il a fait don, les Trois baigneuses,
oui.
au Petit Palais.
Au Petit Palais en 1936, effectivement, parce que je trouve que cette lettre dit bien ce que Matisse a pu trouver dans l'œuvre de Cézanne. D'abord la puissance de la composition, le souci d'un travail sans relâche, répété. Il parle de nombreuses études aboutissant à cette œuvre. Cette œuvre s'intitule « Les Trois baigneuses ». Elle est datée autour de 1878-1880. C'est une œuvre que Matisse a acheté à Ambroise Vollard en décembre 1899, en gageant une bague de son épouse, probablement sa bague de fiançailles quand même, bon, avec son accord, je rassure tout le monde. Il y a donc une nécessité pour Matisse d'acquérir une œuvre de Cézanne, qu'il a peut-être découvert en 1895, quand Vollard avait consacré une exposition à Cézanne. Il y a donc l'importance du travail, sans relâche, de la puissance, de la force de composition. Et il y a aussi quelque chose dans cette lettre qui est extrêmement important, c'est le réconfort moral. C'est-à-dire que chaque fois que Matisse a pu douter dans son parcours artistique, eh bien, c'est vers Cézanne qu'il se tourne. Il a même eu ces mots... Si Cézanne a raison, j'ai raison. C'est-à-dire que c'est le point d'appui. Ce n'est pas simplement le point d'appui de Matisse. Il y a eu Picasso, il y a eu Braque, il y en a eu d'autres. Mais c'est vrai qu'il trouve la composition, la puissance, et de l'autre côté la couleur, mais aussi le réconfort moral. Picasso disait « Si je connais Cézanne, il a été mon seul et unique maître. Il est notre père à tous. Il nous protégeait. » C'est donc une manière de protection.
Alors pourtant, on a connu aussi des détracteurs terribles. On va en écouter un, peut-être qui va vous faire braire. Mais on va écouter, c'était Dali chez Denise Glaser, c'était en 1971.
Vous savez que j'ai l'habitude, depuis ma plus tendre enfance, de jamais répondre à ce qu'on me demande. Par contre, j'ai enchanté de parler de l'exposition des aquarelles de Cézanne à la galerie Verneim, parce que avec cette exposition, ça sera le triomphe de ce que j'ai dit tout le long de ma vie. Le peintre le plus mauvais de la France s'appelle précisément Monsieur Paul Cézanne. C'est le peintre le plus maladroit, le plus catastrophique et celui qui a plongé l'art moderne dans la merde sublime qui est en train de nous engloutir à tous. Par contre, Ernest Meisonnier, oublié comme vous le savez, c'est le vrai virtuose, c'est un véritable rossignol du pinceau.
Alain Tapie, alors, outre la provocation qu'on lui connaît à Dali, c'est le père de l'art moderne qu'il critique.
Oui, il faudrait
à travers Cézanne,
Dali. D'abord que, par chance, le champ de l'art et le champ de la peinture est très étendu. Et par chance, depuis l'Antiquité, nous savons qu'il y a la quête du beau idéal, nous savons qu'il y a la quête du beau naturel, et nous savons aussi qu'il y a la quête du beau de l'illusion, du beau illusionniste. Et probablement que Dali est plutôt du côté de l'illusion, comme l'était d'ailleurs à sa manière des Quirico, qui disait que Monet, Claude Monet, était un mauvais peintre. Bon, alors, c'est en effet cette... Dali n'a pas besoin de réconfort. Mais ce réconfort, c'est une question absolument fondamentale. Quelle est la finalité de la peinture si ça n'est pas le sujet, précisément? Eh bien, c'est ce réconfort spirituel qu'apporte la peinture de Cézanne. À un moment donné, vous regardez un paysage, nous sommes vers 1890, la montagne Sainte-Victoire. Vous voyez la barrière du Jacques-Bouffant, vous voyez le creux du vallon, vous montez vers la montagne. Et vous vous dites, ah mais voilà, j'ai un paysage classique. Et en fait, il n'est pas du tout plus classique qu'autre chose. Il est dans cette dimension fusionnelle où toutes les touches sont toutes présentes les unes aux autres, où tout... dans la profondeur, dans la transparence, mais en même temps dans l'unité de lieu. Et tout est pratiquement sur le même plan, vous voyez. Et alors, le réconfort vient de là. Cézanne devient un peintre, et Gauguin l'avait pressenti. Il a sa forme de symbolisme généralisé. Nous n'avons plus besoin de détailler les symboles ici et là pour voir que chaque touche, chaque instant de la peinture est un moment de pur symbole et c'est un moment de pure parole pour nous.
Alain Tapie, ça nous fait revenir sur cette question de la reconnaissance de Cézanne, de ce qu'il a apporté aux générations futures. Mais à lui-même d'abord, il a une carrière qui met du temps à être reconnue. Il y a un temps assez long pour que son œuvre originale, en son temps, advienne et soit complètement reconnue par ses pairs. Il se retrouve un peu hors des sentiers de l'académisme.
Il le sera tout le temps, il sera régulièrement refusé au salon. Une fois, je me souviens plus exactement de la date, c'est 81, je pense, je ne sais plus. Enfin, donc, il est finalement admis une fois parce que il passe pour élève de Guillemet. Enfin, c'est assez extraordinaire.
C'est presque un malentendu.
C'est presque un malentendu. La reconnaissance viendra à peu près tout doucement vers les années 90, et il ne fera jamais rien pour non plus. Il aura lui-même dans ce rapport au monde et même aux artistes quelquefois, à part Monet et Renoir, il aura des rapports très difficiles et il finira par ne plus s'intéresser à ces mondes, alors qu'il est toujours resté très attentif à l'idée du salon. Il trouvait que c'était légitime, il voulait que le salon des refusés de 1863 puisse perdurer de façon à ce qu'au moins des gens comme lui puissent être vu. Et puis, voilà.
Alain Pagès, cette idée de se retrouver un peu hors de l'académisme, en tout cas d'essayer de faire autre chose en tant qu'artiste, c'est aussi une idée qui est commune à Zola, qui lui-même va décider d'écrire autrement, d'aller sur le terrain, d'aller voir les mineurs, d'aller se renseigner avant d'écrire. C'est une culture peut-être un peu commune que d'inventer quelque chose à travers son art, Zola en littérature, Cézanne en peinture.
Oui, moi je dirais encore une fois ce contact avec la nature, ce geste initial que je rappelais tout à l'heure, fuir en dehors de ces remparts étouffants de la ville d'Aix pour trouver autre chose. Et puis peut-être pour Zola et Cézanne, alors, une expérience différente, monter à Paris. Zola est monté à Paris, il y est resté. Et ensuite, d'une certaine
façon... Il en venait au départ, voilà, hein, voilà, il y est né aussi.
Il y est né, c'est vrai. Mais enfin, il a vécu, comme Cézanne, toute son enfance à Aix. Ils sont tous les deux, on peut le dire, Zola et Cézanne, aixois. Et là, il y a cette expérience commune qu'on a rappelée, mais qui est absolument essentielle, des décors de la Sainte Victoire et des promenades en commun. Mais ensuite, une décision différente. Pour Zola, ce sera le fait de monter à Paris, d'y rester, d'une certaine façon de se couper ensuite de cette province qu'il va peindre dans ses romans, mais avec cette idée que Paris, la capitale, est essentielle. Pour Cézanne, c'est différent. Cézanne est un homme qui va faire des allers-retours entre Aix et l'Île-de-France, qui va beaucoup peindre, malgré tout, dans la région parisienne, mais qui ensuite choisira comme lieu d'élection, d'une façon tout à fait forte, Aix, la Provence.
À cause de la nature, essentiellement.
Voilà, surtout après, d'ailleurs, la mort de son père en 1886, qui lui donne une sorte d'aisance financière, qui le libère, finalement, de ses soucis matériels. Donc, il y a effectivement une expérience commune, moi, je crois très importante aussi cette réflexion commune que l'on voit dans leur correspondance. Je l'évoquais à l'instant, elle a été publiée, je le rappelle, sous le titre de « Lettres croisées » par Henri Mitran il y a quelques années chez Gallimard. Et de tout cela, cela donne deux artistes qui, finalement, avaient programmé tout jeune quelque chose qui, d'une certaine façon, s'est réalisé. Je lis le texte d'une lettre de Zola que j'ai sous les yeux. Zola écrit à Cézanne en 1860 « J'ai fait un rêve l'autre jour. J'avais écrit un beau livre, un livre sublime que tu avais illustré de belles, de sublimes gravures. Nos deux noms en lettres d'or brillaient, unis sur le premier feuillet, et dans cette fraternité du génie passée inséparable à la postérité. » D'une certaine façon, alors on pourrait ensuite évoquer le grand roman de Zola, l'œuvre où Zola va reprendre sa relation avec Cézanne. D'une certaine façon, il y a bien eu, dans l'expérience commune de Zola et de Cézanne, cette fraternité du génie.
Vous allez nous lire une des premières lettres de Zola à Cézanne. C'était le 14 juin 1858, après son arrivée à Paris.
Mon cher ami, je vais t'annoncer une chose, mais une chose charmante. J'ai déjà plongé mon corps dans les eaux de la Seine à la large largeur, à la profonde profondeur. Mais là, il n'y a pas de pain séculaire. Mais là, il n'y a pas de source fraîche pour faire rafraîchir la dive bouteille. Mais là, il n'y a pas un Cézanne à la large imagination, à la conversation enjouée et piquante. Aussi, foin de la Seine, me suis-je écrié, et vive la gourde de la palette, nos célestes parties sur les bords qui la voisinent. Paris est grand, plein de récréations, de monuments, de femmes charmantes. Aix est petit, monotone, mesquin,
rempli de femmes. Le bon Dieu me garde de me dire des exoises. Et malgré tout cela, je préfère Aix à Paris. Serait-ce les pins ondulants au souffle des brises? Serait-ce les gorges arides, les rochers entassés les uns sur les autres? Serait-ce cette nature pittoresque de la Provence qui m'attire à elle? Je ne sais. Cependant, mon rêve de poète me dit qu'il vaut mieux un rocher abrupt qu'une maison nouvellement badigeonnée, le murmure des flots que celui d'une grande ville, la nature vierge qu'une nature tourmentée et apprêtée. Serait-ce plutôt les amis que j'ai laissés là-bas, dans les voisinages de l'Arc, qui m'attirent dans le pays de la bouillabaisse et de l'aïoli? Certainement, ce n'est que cela. Elle est intéressante, cette première lettre de Zola à Cézanne. Il a 18 ans. Il est encore, alors qu'il va choisir, comme je le disais, Paris d'une certaine façon contre Aix, il est encore pris dans, justement, ce souvenir des promenades à Aix et notamment du lieu des Médiades. On a déjà évoqué à plusieurs reprises ce qui sera le grand motif de la peinture de Cézanne, les baigneuses. Eh bien, là, voilà ce souvenir de la rivière L'Arc, de ce pin qui ombrageait la rivière et de leur baignade commune. On voit très bien que Zola, d'une certaine façon, travaille ce motif qui est un grand motif cézannien dans cette première lettre, qui est une lettre de la nostalgie, mais nostalgie dont il va se séparer, puisque justement, sa vie, elle sera parisienne.
Alain Tapie, qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette lettre?
Bien, justement, elle est en effet le creuset de tout, puisque tout commence au bord de l'Arc, avec ses rencontres, baigneurs, pas de baigneuses, sûrement pas, mais le rêve de baigneuse quand même. Tout commence avec la pastorale, ce tableau que l'on compare volontiers à une œuvre de Poussin, parce qu'il s'appelle la pastorale, parce qu'il dit à la fois cette éternité de l'attention et de l'incompréhension entre le masculin et le féminin. L'ambiguïté de ces êtres qui sont des êtres au monde, dans les rochers, dans l'eau, mais qui sont en même temps des étudiants qui s'ennuient, qui désirent, qui ne savent pas quoi faire, et des filles qui se demandent bien ce qui va leur arriver. Il y a cette extraordinaire ambiguïté du microcosme et du macrocosme. Voilà, tout est là dans ce tableau, comme tout est là dans cette lettre.
Et en même temps, c'est le regard de Zola sur ce qui peuvent être des motifs à la fois littéraires et des motifs de peinture, avec l'idée de l'expérience. Hein. Il se rappelle de l'expérience de ses corps dans ses paysages.
Mais Cézanne ne cessera ensuite de l'exploiter comme une expérience. Et lorsqu'il regardera Poussin, ce ne sera pas le Poussin classique, le Poussin au sujet hiérarchisé. Ce sera le Poussin vénitien, le Poussin du Titien, le Poussin où les figures sont encore inscrites dans le chromatisme du paysage, précisément de l'eau, où les figures sont comme estompées, sont comme habitées par le paysage, recouvertes, et elles le recouvrent en même temps. Cette merveilleuse ambiguïté qui fait que, et grande technique aussi de l'Italie depuis l'Antiquité, mais reprise surtout par le Titien, merveilleuse technique du contrapposto, qui fait que les figures se tournent les unes vers les autres, de façon à enchaîner les mouvements, même à distance, et ce qui fait comme une sorte de ballet immobile, et que nous soyons dans une scène presque salace, une scène presque innocente. Poussin aura à un moment donné un petit tableau merveilleux qu'on appelle le concert d'ange. Et alors on se dit, mais ce tableau-là, il est au Louvre, il est petit, il est grand comme ça, rien du tout, personne ne l'a jamais vu. Eh bien si, c'est tellement vrai que Cézanne l'a pratiquement dessiné entièrement. Et qu'est-ce qu'il aime dans ce concert d'ange? Il aime l'ingénuité, il aime cette fraîcheur, cette immédiateté, il aime la virginité, c'est pas l'origine du monde, c'est la virginité du monde. Et c'est ce retour à un monde vierge, à un monde pur, qu'il ne cesse tout le temps de rêver.
Alors quelques mots sur les baigneuses, Dominique Dupuis-Labbé, vous qui avez choisi de nous faire partager ce tableau aussi donné par Matisse. Ces baigneuses que l'on retrouve dans l'exposition, revisitées notamment à travers leur forme, la densité des formes.
Oui, même leur monumentalité, parce qu'elles sont vraiment monumentales, y compris dans des petits formats.
Comme seraient des statues d'une certaine manière?
Ah bien, ça c'est vraiment le bon mot que vous venez de dire, parce qu'il se trouve quand même, c'est très intéressant, qu'il y a trois grands artistes du XXe siècle qui se sont rendus acquéreurs de baigneuses de Cézanne. Il y a Matisse en 1899, Picasso en 1956 et Henri Moore en 1962. Et Moore disait notamment que c'est la seule image qu'il avait eu envie de posséder. Et il ajoute, c'est la joie de ma vie. Et à partir des baigneuses de Cézanne, il a fait toute une série de petites baigneuses sculptées qu'on peut voir maintenant dans son atelier de la Fondation Henry Moore à Perry Green. Et c'est absolument extraordinaire. Et c'est vrai que Cézanne a cette capacité de monumentalité, y compris dans les petits formats. Ce qui fait que lorsque vous regardez une reproduction et que l'on ne vous donne pas les dimensions de l'œuvre, vous ne savez pas si vous avez à faire un petit, un moyen ou un grand format.
Alors monumentalité, il faut peut-être le préciser, pas tellement par le format non plus de la silhouette dans le tableau, mais par sa densité, on pourrait dire. Alain Tapier, quel serait le terme ?
Encore une fois, par cette organisation, par équivalence sensible, cette recherche de la sensation continue entre le corps, la branche, le rocher, dans la dimension verticale, horizontale ou oblique, mais ces dimensions-là sont absorbées, sont complètement intériorisées. La monumentalité, Cézanne la regarde aussi à travers, alors je vais dire nature morte parce qu'on est obligé de dire nature morte, mais ce sont des peintures d'objets. Mais ces peintures d'objets n'ont pas de caractère symbolique. Cézanne choisira tantôt, au début de sa carrière, des formes de composition d'objets allant vers une sorte de verticale un peu à la flamande, mais il aura aussi l'autre démarche qui prendra un modèle sur la peinture romaine, napolitaine en particulier, et sur ces natures mortes, avec des tables horizontales. Que va-t-il aimer dans cette horizontalité ? Il va aimer une nouvelle forme de profondeur. Invisible, il y aurait une telle accumulation d'objets incohérents les uns par rapport aux autres, n'est-ce pas ? Dans la fonction, disons, de la nature morte. Non, il a cette profusion est donnée comme une offrande. C'est donné comme une offrande, c'est la Xenia antique, c'est une offrande qui vient à nous et c'est une offrande dont nous ne savons que faire, si ce n'est nous plonger dedans. Et très souvent, il aura, Cézanne par exemple, peindra à plusieurs reprises et surtout à la fin de sa vie des crânes. À partir de la mort de sa mère en 1897, il peindra des crânes. Il dira finalement, ben c'est dans le crâne que je trouve tout. Parce que la modulation du
crâne... Le crâne, c'est un peu l'œuf.
Oui, c'est l'œuf, c'est le crâne poli, lisse, où il y a une modulation tout à fait extraordinaire. Et alors, il passe de la modulation à la bougie, il passe de la bougie à la table, et on ne se rend même pas compte qu'il a fait une vanité.
Alain Pagès, pour revenir à cette lettre de Zola à Cézanne que vous nous avez lue, on voit le regard que porte Zola lui-même sur ses territoires, sur sa terre d'origine, et en même temps, on voit que chacun va prendre ses marques par rapport à cette histoire-là. Lui, c'est la ville qui va l'attirer, la ville de par ses mutations, mais pourtant la figure du peintre, elle apparaît aussi dans l'œuvre de Zola. C'est la figure de Claude Lantier notamment.
Voilà, on l'a déjà évoqué. Il faut évoquer deux romans de Zola où Claude Lantier apparaît. Claude Lantier, le peintre, donc le personnage créé par Zola. D'abord, Le Ventre de Paris, où on voit un peintre qui est un peintre de nature morte, surtout, et puis surtout l'œuvre. L'œuvre, grand roman, publié en 1886.
Alors d'abord, on a dit que ça a été la pomme de discorde entre Cézanne et Zola. Est-ce que c'est vrai ou pas ?
Voilà, revenons là-dessus. Donc, l'œuvre, pomme de discorde, comme vous le dites, c'est en effet un roman où Zola met en scène le peintre Claude Lantier en s'inspirant en grande partie de la vie de Cézanne, c'est vrai, surtout de son enfance, enfin de sa jeunesse. C'est-à-dire que tout le début de l'œuvre est une façon, pour Zola, autobiographique, de se raconter et de raconter leur existence commune. Mais le peintre de l'œuvre dépasse largement Cézanne. C'est un peintre de synthèse, d'une certaine façon, qui s'inspire aussi de Manet, qui s'inspire de Monet, de Manet, sur lequel d'ailleurs Zola a beaucoup travaillé. Et l'œuvre de Claude Lantier, quand on la regarde tout au long du roman que Zola écrit, c'est une œuvre qui évolue énormément, qui, en effet, par certains aspects, s'appuie sur l'œuvre de Cézanne, mais qui ensuite devient plutôt une œuvre symboliste. Donc, Claude Lantier échappe tout à fait à Cézanne.
Personnage de fiction, personnage imaginaire.
C'est un personnage de fiction.
Peut-être l'enfance, la jeunesse du peintre il en fait partie.
Voilà. Mais je termine peut-être sur la pomme de discorde, comme vous le dites. C'est-à-dire qu'on a pu reprocher à Zola d'avoir peint quoi donc ? Un peintre incapable d'arriver jusqu'au bout de ce qu'il souhaitait, un peintre qui finalement est victime de l'échec, mais au fond...
Trop audacieux, au fond.
Voilà, trop audacieux, dépassant, et d'une certaine façon, son Claude Lantier est tout à fait un peintre de génie, et pas du tout un peintre raté, contrairement à ce qu'on dit. Un peintre, en effet, qui dépasse, on vient de le voir dans la façon dont on a évoqué à l'instant la réception de Cézanne, un peintre qui dépasse de loin ses contemporains, et qui, victime de son échec, d'une certaine façon, va se suicider. Voilà donc ce que raconte l'œuvre, et on a pu dire que Cézanne, lisant ce roman, a été profondément blessé et qu'ensuite il a rompu avec Zola. Et cela, on a pu le dire, notamment les biographes de Cézanne, parce que...
Il était reconnu.
Voilà, qu'il se serait reconnu. Parce que la dernière lettre qu'on a conservée de Cézanne à Zola, datant d'avril 1886, est une lettre qui est juste postérieure à la publication de l'œuvre. Or, tout cela, on le sait aujourd'hui, est faux, car on vient de retrouver, il y a quelques années à peine, une autre lettre de Cézanne à Zola, datant d'un an plus tard, de novembre 1887, où Cézanne, en toute amitié, dit à Zola qu'il va bientôt aller le voir, qu'il va même lui serrer la main. Donc, il n'y a pas eu...
Pas de rupture, en tout cas, dans les liens.
Entre Zola et Cézanne au moment de l'œuvre. Cézanne est un homme intelligent, de grande culture, c'est tout ce que montre l'exposition d'Alain Tapier. Il est parfaitement capable de faire la part des choses, et il sait très bien que le peintre Claude Lantier ne le représente pas, et qu'il est à l'écart de tout cela. Et puis, au fond, voilà, ce qui va se passer entre Zola et Cézanne, ça on peut le regretter, c'est que à partir sans doute de 1887-88, 2-3 ans après l'œuvre, ils n'auront pas l'occasion de se retrouver, Cézanne restant plutôt dans Aix, Zola menant sa vie parisienne. Ils seront donc séparés, mais on sait en tout cas que quand Zola meurt brutalement en 1902, Cézanne s'enferme dans son atelier des Lauves et pleure pendant 2 jours.
Alain Pagès, pour revenir à l'exposition du musée Marmottan-Monet, devant ces tableaux qui font clairement allusion au meurtre, en tout cas qui nous sont présentés comme des allusions directes à Thérèse Raquin, est-ce que ces toiles ont pu être faites en complicité avec Zola? Est-ce qu'on a retrouvé dans les correspondances des échanges sur ce sujet?
Alors malheureusement non, parce que la correspondance entre Zola et Cézanne est une correspondance de jeunesse qui s'arrête en gros vers 1864. Ensuite, il y a beaucoup de lettres.
Mais ce sont aussi des toiles de jeunesse.
Voilà, on est d'accord, mais enfin, plutôt 1864. Là, nous sommes devant des toiles qui sont postérieures à cette date de 64. Mais moi, je pense que votre question est importante parce que on retrouve ensuite, au moins jusqu'en 1885-86, des lettres de Cézanne à Zola qui sont tout à fait intéressantes et qui montrent en tout cas qu'entre eux, un dialogue se continue. Et je voudrais souligner ce qui me semble important dans l'œuvre de Cézanne, ce moment où Cézanne, à plusieurs reprises, est invité chez Zola à Médan. Médan, vous le savez, c'est cette maison de campagne que Zola a achetée en 1878, à 40 km de Paris, qu'il va faire agrandir. Et là, il y invite Cézanne. Cézanne y fait plusieurs séjours. Et pourquoi est-ce que Cézanne y vient là-bas, à Médan? Parce qu'il retrouve l'arc dont Alain Tapier vient de parler à l'instant, c'est-à-dire ce coin de nature avec la Seine, avec l'île, enfin au fond des éléments qui leur rappellent à tous les deux cette jeunesse aixoise. Et Cézanne aimera beaucoup ce décor. Il va prendre la barque, la fameuse barque Nana, à traverser la Seine, peindre sur l'île qui est en face, et il laissera plusieurs tableaux importants, dont le château de Médan et de très nombreuses aquarelles.
Dominique Dupuy-Labbé, sur le rôle de passeur dont on parlait au départ, hein, il y a certes les influences italiennes, il y a aussi l'influence que va avoir Cézanne sur les générations qui le suivent. On a parlé de Matisse, on a parlé de Picasso. Qu'est-ce qu'on peut dire, outre le réconfort qu'il a pu leur apporter à travers son audace et ce qu'il a réussi dans son œuvre, qu'est-ce qu'on peut dire de l'apport presque pratique à leur peinture, c'est-à-dire le travail des couleurs, qui va quand même inspirer les fauves, la géométrie des tableaux qui va aussi inspirer les cubistes.
Absolument, absolument. Il y a une chronologie de la découverte de Cézanne par cette jeune génération. Je parlais tout à l'heure de l'exposition 1895 chez Vollard que Matisse visite. Il y a Picasso qui, en 1900, au moment de l'exposition universelle, voit la centennale de l'art français où il y a 3 Cézanne qui sont exposés. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a un point commun entre Cézanne, Matisse et Picasso, c'est le même marchand, c'est-à-dire Ambroise Vollard. Et Picasso est exposé chez Vollard pour la première fois avec un compatriote espagnol en juin 1901. Ensuite, Matisse sera exposé chez Vollard en 1904. qu'y trouvent-ils ? Ils y trouvent un certain nombre de choses, effectivement. Je dirais, pour reprendre l'expression de Roger Fry, qui était un critique anglais qui appartenait au groupe de Bloomsbury, les pures données de l'espace et des volumes. C'est-à-dire que chacun va aller chercher chez Cézanne ce qui lui correspond le mieux. C'est-à-dire, oui, le fameux traitement de la nature par le cylindre, la sphère et le cône, cette lettre de Cézanne à Émile Bernard, sur laquelle on a peut-être trop insisté, mais c'est vrai que lorsqu'on regarde les dernières Saintes Victoires, qu'on regarde les peintures de Château Noir par Cézanne, on voit bien qu'il y a en germe la géométrisation de la forme pour Picasso, qui est peut-être moins cézannien que le fut Braque, parce que Braque s'est rendu à l'Estac à plusieurs reprises pendant sa période fauve, d'octobre 1906 à février 1907. Il va y revenir plusieurs fois en 1907, il y retourne en 1908. Et on voit là le passage d'une influence, entre guillemets, de Cézanne, de la couleur. Cézanne qui disait que la couleur est à sa richesse, la forme est à sa plénitude. Ça, je pense que toutes les générations de peintres et d'étudiants qui ont appris cette formule. Mais on passe effectivement de cet éblouissement de la couleur à quelque chose de beaucoup plus austère, Braque empruntant même la palette cézannienne d'ocre et de vert pour les maisons à l'Estac et les routes à l'Estac de l'été 1908. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et vous parliez tout à l'heure de la ligne qui n'existe pas. Matisse a repris aussi cette formule. La ligne de contour n'existe pas dans la nature. On n'en a pas besoin, on dessine avec la couleur.
Alain Tapie, ça, ce sont les influences notamment en France et en Espagne. Mais il y a aussi un retour à l'Italie, hein, d'une certaine manière, puisque lui, ayant pris chez les maîtres italiens, il va aussi rendre d'une certaine manière aux Italiens, puisqu'il va y avoir le mouvement du Novecento qui va aussi reprendre de chez Cézanne un certain nombre de principes.
Je voudrais aussi revenir sur cette phrase, sur cette commentaire d'Émile Bernard de 1904 qui est commun à toutes ces cultures dites modernes, et revenir sur le terme de modernité. Traiter la nature par le cylindre, la sphère et le cône. Je crois que ce que nous avons dit jusqu'ici et l'exposition montre que ces éléments géométriques sont parfaitement enfouis à l'intérieur même de toutes les compositions. Qu'un peintre les fasse ressortir, qu'un autre les fasse ressortir, c'est sa propre modernité. Qu'est-ce que le mot moderne ? Être moderne, c'est d'être dans la modalité du temps. Et être dans la modalité du temps, cela veut aussi dire rompre avec des filiations passées pour se libérer, en quelque sorte. Eh bien, les cubistes français n'ont jamais cessé de se plaindre du caractère narratif de la peinture ancienne pour pouvoir arriver à la modalité du temps qui était « libérons-nous de la narration pour arriver à la forme pure ».
Bon. C'est en cela qu'il est le père de l'art moderne, de qui l'on veut et de qui se reconnaît,
mais il est le père de bien d'autres choses aussi, n'est-ce pas ? Il a la phrase d'Émile Bernard qu'on oublie toujours, enfin, citée, Cézanne dit, Cézanne ajoute, la nature pour nous est plus en profondeur qu'en surface. Et il emploie encore le mot nature. Quel est le cubiste qui parlerait de nature ? Non, c'est terminé cette affaire-là. Enfin, on en est libéré. Et non, avec Cézanne, on n'en est pas libéré. Et pour répondre à votre question, eh bien, certes, Braque formidablement cézannien, mais il est cézannien comme il est dans ce retour aux ressources à la peinture antique, comme il est au retour à la fresque, n'est-ce pas ? Et ils ont ce point commun, ce côté mosaïste de Cézanne, ce côté fresque.
Comme si Cézanne avait été un médiateur justement de cela, c'est-à-dire que c'est les classiques en Cézanne qui les intéressent.
Ce n'est pas seulement Cézanne en tant que telle, c'est toute la culture cézannienne qui est portée à travers, je parle en particulier de la peinture de Braque. Et pour évoquer, évidemment, le rapport au Novecento, je laisserai Dominique en parler, mais je dirais simplement un mot, c'est que la composition, l'organicité, ce classicisme de l'organicité, il est parfaitement à l'œuvre dans les tableaux de ces artistes italiens, Ardengo Soffici, de Carlo Cara, et évidemment Morandi aussi. Cette organicité est parfaitement à l'œuvre là.
Dominique Dupuis-Labbé, sur le Novecento qui lui aussi s'intéresse.
Le Novecento, les Italiens, on pourrait aussi parler des Anglais, on pourrait parler aussi
mais
des
si
Allemands.
L'exposition était sur les Anglais, voilà, on parlerait exactement. Des Anglais, mais comme elle est sur les Italiens.
Parce qu'il y a un point commun. Il y a un point commun, et ce point commun, c'est cette capacité, notamment pour les Italiens, de s'intéresser à ce qui est structuré dans un paysage, c'est-à-dire les maisons, les habitations, que Cézanne, parfois, avait commencé à non pas transformer, mais à ne pas s'apesantir sur certains détails, c'est-à-dire oublier des portes, oublier des fenêtres, oublier des cheminées, c'est-à-dire garder effectivement une certaine géométrie. Et c'est bien ce que disait Kandinsky à propos de la nature morte, parce que les Italiens ont aussi beaucoup, au Novecento, traité de la nature morte. La nature morte, c'est véritablement Cézanne qui la remet à l'honneur, parce qu'elle va courir pendant tout le XXe siècle. Il n'y a pas de peintre qui échappe à l'importance de la nature morte. Derain disait le compotier est devenu le Christ du XXe siècle. Et cette capacité que soulignait Kandinsky disait des natures mortes de Cézanne qu'elles étaient extérieurement mortes, mais intérieurement vivantes. C'est-à-dire que
on retrouve cette idée que le minéral, le végétal, l'humain, voilà, tout se retrouve surtout, dans cette chair cézannienne.
On y intègre sa nécessité intérieure. On y intègre une ambiguïté spatiale absolument hors du commun quand on regarde les dernières grandes natures mortes des années 1900. C'est étourdissant. C'est vertigineux quand on commence vraiment à regarder la position de chaque élément dans cette nature morte. Et Kandinsky poursuit en disant « Mais il ne peint pas un homme, il ne peint pas un paysage, il ne peint pas un objet. Il peint avec qu'un but intérieur qui est de produire une image. » Et moi, je pense que c'est réellement ce qu'ont compris ces suiveurs, c'est-à-dire l'importance de l'image, l'importance du pictural par rapport à la réalité, cette capacité, de transcender, de sublimer la nature, qui reste toujours le point d'appui, qui reste toujours la source absolument incontournable, mais à partir de laquelle on crée un monde en soi qui est celui de la peinture.
Très très rapidement, Alain Pagès, pour en revenir à Zola, autant la filiation, alors certes biographique, mais aussi dans l'œuvre avec les premiers tableaux de meurtre et les tableaux violents, nous paraît évidente avec Zola. Qu'est-ce qu'on peut dire par la suite? Est-ce que vous gardez un petit fil conducteur qui vous ramène vers Zola quand vous regardez l'étoile plus tardive de Cézanne?
Quand je regarde ces toiles tardives, encore une fois, je vois la Sainte Victoire. Mais tenez, en un mot, je dirais qu'ils ont le même nom, Zola, Cézanne. Il y a cette syllabe ZA dans Zola et dans Cézanne. Et tous les deux, au fond, ont répondu au programme de leur nom, peindre de A jusqu'à Z.
Merci à tous les trois, Alain Tapier, Dominique Dupuis-Labbé et Alain Pagès, d'avoir été parmi nous. Je rappelle que l'exposition Cézanne et les maîtres rêves d'Italie est à voir au musée Marmottan en Monet jusqu'au 20 janvier prochain. Tout de suite, c'est l'heure de la chronique de François Sureau.
Bravons la mélancolie, nous sommes à présent, Vincent et moi, dans l'allée centrale du cimetière du Père-Lachaise, au kilomètre 254, depuis la source de la Seine. Devant nous, il y a une sorte de porche, en haut de l'allée pavée centrale, il y a une sorte de porche assez éprouvant, où un homme et une femme, sans courage, ils sont tout nus, à disparaître dans le néant. C'est absolument affreux. Heureusement, sur la droite, on voit le gisant de Victor Noir, le journaliste qui a été tué en duel par le prince Bonaparte sous le Second Empire, et dont les attributs sexuels proéminents sont l'objet, comme on sait, d'un culte de la fertilité de la part des Parisiennes depuis cette époque, culte qui a rendu les 10 attributs d'un vert brillant par l'effet du frottement. On croit en général que le Père Lachaise a toujours été là, comme le Nil, le Conseil d'État ou le Café Calvados, et rien n'est moins vrai. Père Lachaise est en fait une création des années 1800, parce que les cimetières de Paris étaient très encombrés. Et si l'on y voit Molière et La Fontaine, c'est que l'autorité préfectorale, le préfet de Paris ou le préfet de police, je ne sais pas, a fait transporter les deux grands écrivains pour faire plus vrai. L'administration en France a toujours eu un côté un peu spirit, comme ça. À la mort de René Cassin, par exemple, je me souviens qu'on avait promené son cercueil dans le Palais Royal pour que le cadavre puisse revoir de ses yeux juridiques les endroits qui avaient fait sa gloire. Quand on l'a transporté il y a quelques années au Panthéon, les cendres de Germaine Tillon, la résistante, les cendres en question avaient été remplacées par de la terre parce que la famille s'était opposée à juste titre à ce viol de sépulture, mais il fallait bien que l'héroïne soit récupérée par un gouvernement prosaïque. Le Père Lachaise, c'est le 19e siècle pris dans la glace avec les tombes toujours fleuries de Chopin et de Nerval, mais qui sauve une incroyable débauche de fresques et de sculptures par lesquelles la vanité sociale défie la mort. Hugo déclarait de manière assez drôle « Je hais votre Père Lachaise avec ses hideux petits édifices maniérés à cases et à compartiments où le brave Parisien met dans des tiroirs son père, sa mère, ses enfants, sa femme et toute sa race. On se croirait en fait à Charenton. Nombre de mausolées ressemblent d'ailleurs à ces petites maisons où l'on enfermait les fous avant que le grand Pinel, l'aliéniste, le psychiatre du 19e siècle, ne les libère. Toujours prêt à rire des choses les plus sérieuses, d'un rire un peu gras, Claudel prétendait en 1939, on trouve ça dans le journal d'Hélène Opneau, je le cite, que le préfet de police a empêché la sirène d'être actionnée près du cimetière du Père Lachaise, afin que les morts ne confondent pas la sonnerie d'alarme avec celle de la trompette du jugement dernier, d'autant qu'ils ont toujours une oreille à l'écoute. J'ai mille raisons d'aimer ce cimetière. D'abord, parce que mon grand-père y est né, ce qui n'est quand même pas banal. Ensuite, parce que j'y vais chaque Toussaint avec ma fille Victoire déposer une fleur sur la tombe d'Apollinaire qui a été sculptée par Ferrat, peintre russe, et qui est une sorte de dolmen. Mais surtout parce qu'on y voit le cénotaphe d'un Anglais que j'ai beaucoup aimé sans le connaître, vu qu'il est né au XVIIIe siècle, et qui s'appelait Sidney Smith. La France que je préfère, au fond, est traversée par l'étranger, et la destinée de Sidney Smith l'illustre très bien. Il est né en 1764 à Westminster, dans une famille d'officiers de marine. À 13 ans à peine, comme on faisait à l'époque, on voit ça dans le film Master and Commander. À 13 ans à peine, il s'engage dans la marine, il participe à plusieurs batailles de la guerre d'indépendance américaine, et puis, démobilisé, il s'établit 2 ans en France, qui est un pays qu'il ne cessera jamais d'aimer. C'est assez paradoxal, puisqu'il avait combattu contre les Français au moment de la guerre d'indépendance, et ensuite il combattra contre les Français au moment de la Révolution et de l'Empire, mais il n'a jamais cessé d'aimer la France. Il se met au service du roi de Suède, puis du sultan de Constantinople, et pour finir, la Révolution française le rappelle dans la marine, il devient l'un des adversaires de Bonaparte au siège de Toulon. Il est capturé au cours d'un raid sur le Havre, nous sommes toujours sur les bords de la Seine. Il est enfermé à la prison du Temple, et là, il s'évade en 1798. Je trouve cette scène fantastique qui rappelle le Mouron Rouge. Il s'évade grâce à l'inventivité d'un danseur de l'opéra qui s'appelait Bois Girard et qui s'était costumé pour la circonstance en général républicain. Il devient amiral, il affronte Bonaparte en Égypte et c'est lui qui défend Saint-Jean d'Acre. Napoléon dira à Ségur à ce moment-là, « Ami, si je m'étais emparé de Saint-Jean d'Acre, je prenais le turban, je faisais mettre de grandes culottes à mon armée, j'en faisais mon bataillon sacré, mes immortels. Au lieu d'une bataille en mort à vie, je me faisais empereur d'Orient et je revenais à Paris par Constantinople. » Et il ajoutait à propos de Sidney Smith, « Décidément, cet homme m'a fait manquer ma fortune. » Au départ des Français, les Français s'en vont, Bonaparte quitte l'Égypte, mais les trésors de l'expédition d'Égypte sont entassés sur un bateau, la grande expédition d'Égypte, avec la découverte de l'Égypte, avec ses trésors archéologiques, avec les planches de vivants de nom, tout ça est entassé sur un bateau et les Anglais s'apprêtent à le saisir. Et Sidney Smith, de manière extrêmement chevaleresque, en réalité, fait partir les bateaux vers la France, qui est à l'époque son ennemi, parce qu'il trouve normal que les Français récupèrent ces trésors archéologiques qu'ils ont été les premiers à récolter. Il en reçoit une lettre de félicitations, plus tard, de Charles X, mais évidemment, il est fort critiqué dans son pays et la gloire de Nelson, par ailleurs, éclipse la sienne. Et puis Napoléon abdique et Sidney Smith, le meilleur adversaire des Français, quitte définitivement sa patrie et revient s'installer à Paris où il s'installe rue Boissy d'Anglas, toujours à 2 pas de la Seine. Il retrouve là-bas ses amis, et d'abord Dominique Larrey, le chirurgien de la Grande Armée qu'il aimait beaucoup, et avec eux il se consacre à l'amélioration du sort des naufragés et à la libération des esclaves, qui est un sujet qui l'occupera toute sa vie. Il n'a pas beaucoup de fortune, mais il dépense là-dedans la majorité de sa fortune. Bref, il se ruine. Et à sa mort, ses héritiers doivent mettre en vente les maigres possessions qui lui restent pour payer le passif de la succession. Et vient le jour de la vente, et là, un vieux général français, qui était à Saint-Jean d'Acre, veut acheter l'épée que Sidney Smith avait portée à Saint-Jean d'Acre, où il avait combattu. Mais ses moyens ne lui permettent pas d'enchérir. Alors le gendre de Sidney Smith la lui offre. Le nom du gendre, comme le nom du général, sont restés inconnus. Mais c'est à ce général et à Sidney Smith que Vincent et moi voulons dédier, en quelque sorte, cet épisode devant le petit cénotaphe 18e de celui qui fut, à travers toutes les guerres, ce qu'on appelle un grand ami de la France.
Et votre
retrouverez François Sureau demain, ainsi que la Grande Table d'été demain. Ça sera le premier volet de notre série en deux épisodes sur le cinéma britannique. Demain, ce sera avec le réalisateur Mike Lee. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Shushan Jergaillan, Lou Quevauvillier, Jeanne Copé, Judith Kravitch et Mathieu Bellini. À la réalisation Marie Placé, à la technique Jacques Hubert. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.